RLP.
C'est Maurice Méliès dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Comment allez-vous? Ben moi ça va à peu près, ouais, bon. J'ai mes hémorroïdes qui me sortent par les trous de nez, bon, mais à part ça, tout va bien. Ça fait un peu drôle, hein, de dire ça, hein. Et si c'était vrai, hein? Vous imaginez un petit peu? Remarquez, c'est comme si vous saignez du nez. Par exemple, vous prenez un bon coup de poing dans le visage, vous avez les hémorroïdes qui sortent du nez, obligatoirement, hein? Ben oui, bon. Bon, ça fait un peu crado, hein. Bon, allez. Je préfère dire que... Il sort du martini, hein, ou de sirop de grenadine. Ça fait plus joli quand même, hein, que des émaux. Aujourd'hui, on est le même jour qu'hier, avec 24 heures de décalage, c'est tout. Ouais. Ben, c'est pas le décalage horaire, hein, c'est fini ça, on n'en parle plus. Hein, pour attendre l'automne prochain pour retrouver les longues heures d'hiver. Hein. Divers et variés, d'ailleurs. On va commencer par un poète. Malheureusement, je ne sais pas s'il est encore vivant. Mais peut-être que oui. Il s'appelle Guy Eliprat. Et il a beaucoup édité, beaucoup de revues, de livres. Bon, et là, alors il fait pas des grands poèmes, il fait pas des grandes tirades. Il fait des petits poèmes de quelques paragraphes. Hein. Et là, il y en a un qui s'appelle « En ce signe », comme un signe de main, comme un signe, je ne sais pas, moi, vous voyez, bon. Je vis petit en ce signe. Sur l'eau se penchent des ombres cendrées qui s'affaissent, abîmées. Les visages discernés sur les murs d'une étoile, une étoile rouge, vêtements d'enfants dévêtus. Aux oiseaux qui volent, le cœur pénètre la peur qui pénètre des espoirs délestés. Date défenestrée, antidate d'une lettre au cœur d'un papier d'arche, je vis debout en ce signe. Voilà. Alors c'est beau et c'est court. Mais des fois, c'est les poèmes les plus courts qui sont les plus beaux. Vous voyez, hein, bon, il y a des grandes tirades. Bon, le Arthur Rimbaud, bien sûr, qui font plusieurs pages. C'est joli aussi. Mais c'est chiant, c'est trop long. Voilà, en fait. Alors, tiens, allez, un qui est bien, même très très bien, Prévert. Et il a fait un poème qui s'appelle « Et la fête continue ». Alors ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Debout, devant le zinc, sur le coup des 10 heures, un grand plombier zingueur, habillé en dimanche, et pourtant c'est lundi, chante pour lui tout seul, chante que c'est jeudi, qu'il n'ira pas en classe, que la guerre est finie, et le travail aussi, que la vie est si belle, et les filles si jolies, en titubant devant le zinc. Mais guidé par son fil à plomb, et il s'arrête pile devant le patron. 3 paysans passeront et vous payeront, puis disparaît dans le soleil, sans régler les consommations, disparaît dans le soleil tout en continuant sa chanson. Voilà. Alors, fil à plomb, vous savez, hein. Maintenant, c'est plus des fils à plomb, ça ne s'appelle plus comme ça. Hein. Mais c'était un bout de ficelle, en fait, avec un plomb au bout, qui permettait d'avoir un mur vraiment vertical, vous voyez. Alors, vous ne pouviez pas faire de l'horizontal, hein. Ça ne marchait pas avec un fil à plomb. Mais vertical, oui. Hein. Bon, je ne peux pas vous faire un dessin, quand même, vous voyez ce que ça veut dire. Hein. Alors maintenant, vous avez vu, il y a ces espèces d'engins avec une bulle, vous voyez. Alors là, vous le mettez dans tous les sens que vous voulez, c'est pas un problème. Hein. Alors, je vous avais dit, j'avais deux beaux livres. Un que sur la mer, des poèmes sur la mer, et l'autre sur les arbres. Et là, aujourd'hui, j'ai dit, tiens, on va plutôt aller au bord de la mer. Et je vous ai trouvé un beau poème de Alfred de Vigny. Parce que tout le monde a écrit sur la mer. Moi, j'ai même fait un livre complet sur la mer. Hein, parce que j'ai vu plein de mers. Les pères, je ne les ai pas vus beaucoup, mais les mers, oh. Et puis alors les océans, sur l'océan, oh que c'était beau. J'ai vu la mer Adriatique, oh, la Méditerranée, bien sûr, la mer des Caraïbes, j'ai vu. Hein, j'ai vu la mer Noire, Non, elle n'était pas en Afrique. Non, non, la mer Noire, elle borde la Bulgarie et la Roumanie. Voilà. Allez, Alfred de Vigny. Bon, il n'a pas mis de titre parce que lui, il s'en foutait des titres. Hein. Pour lui, ce n'était pas ça le poème, c'était le texte. Quel plaisir et quel spectacle que l'élément triste et froid, ouvert ainsi sans obstacle dans un bois de chêne étroit. Sur la plaine humide et sombre, la nuit reluisait dans l'ombre. Des insectes en grand nombre, de merveilleux vermisseaux, troupes brillantes et frivoles comme un feu follet qui vole, ornant chaque banderole et chaque mât de vaisseau. Et surtout, la sérieuse était belle, plus belle de jour et de nuit. La mer, douce et curieuse, le portail avec amour. Pardon, la portait avec amour, excusez-moi. J'ai un petit peu de soleil qui monte dans l'œil, alors ça me déforme les mots sur le papier. Bon, mais vous inquiétez pas, je me rattrape à chaque fois. Hein. Je ne vais pas vous induire en erreur. Hein. Non. Et la douce, douce et curieuse, la portait avec amour, comme un vieux lion abaisse sa longue crinière épaisse. Et sans l'agiter, il laisse se jouer le lionceau, comme sur sa tête agile. Une femme tient l'argile, ou le jonc souple et fragile d'un mystérieux berceau. Oh, c'est beau. Oh, Vigny. Vigny, tu remontes dans mon estime. Ouais, c'est normal. Sans remarquer, je peux dire n'importe quoi, il n'entendra pas. À moins qu'il ait des descendants, et qu'eux, ils sont sur. Ils écoutent Radio Libre en Périgord. Ce qui est vraiment peu probable, quand même. Hein. Ça serait vraiment le fait du pur hasard. Alors tiens, pour la peine, on va commencer. Alors là, je vous ai mis qu'une série de grands chanteurs français. Hein. Alors grands, pas par la taille, par l'esprit qu'ils dégagent. Georges Brassens, Cupidon s'en fout.
Pour changer un amour, notre amourette, il s'en serait pas fallu de beaucoup. Mais ce jour la Vénus était distraite. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Des jours où il joue les mouches du coche, où elles sont émoussées dans le bout. Les flèches courtoises qu'il nous décoche. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Se consacrant à d'autres imbéciles, il n'eut pas l'heure de s'occuper de nous. Avec son arc et tous ses ustensiles, il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. On a tenté sans lui d'ouvrir la fête. Sur l'herbe tendre, on s'est roulé, mais vous, vous avez perdu la vertu, pas la tête. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Si vous m'avez donné toute licence, le cœur, hélas, n'était pas dans le coup. Le feu sacré brillait par son absence. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. On effeuilla 20 fois la marguerite. Elle tomba 20 fois sur pas du tout. Et notre pauvre idylle a fait faillite. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Quand vous irez au bois compter fleurettes, jeune galant, le ciel soit avec vous. Je n'ai pas cette chance et le regrette. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout.
Voilà, ben moi je m'en fous aussi, hein, bon, quelque part. Par contre, là je m'en fous pas parce que je viens de retrouver un poème qui a été écrit en 2001. Et devinez par qui ? Son nom, c'est Méliès. Sauf que c'est pas Maurice, c'est Ghislaine, mon épouse, qui malheureusement est partie depuis 12 ans. Mais au moins, elle a laissé ce poème qui est un chef-d'œuvre. Bon, c'est pas parce que je l'aime, ma femme, parce que je l'aime toujours, hein. Faut pas croire. C'est pas parce que les gens sont plus là qu'on les aime pas, hein. Voilà. Hein. Regardez. Vercingétorix, il est plus là, mais j'aime bien. Ouais. Napoléon, un peu moins. Hitler, là, pas du tout. De Gaulle, un tout petit peu. Il remonte plus dans mon estime maintenant que quand il était président de la République. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Hein. Vous savez, les émotions, hein, ça ne se contrôle pas. Hein. Bon. Alors, ma femme. Oh là là, qu'est-ce que j'ai perdu. Mais on a quand même vécu 50 ans de vie merveilleuse ensemble. Et elle m'a offert 50 ans de vie merveilleuse. Et elle a fait un poème. Ça s'appelle « Terre ». Terre, oui, la terre, la map-monde, que dis-je ? Je m'appelle Terre. Ainsi, je fus baptisé depuis des milliards d'années pour durer toute une vie dans cette immense galaxie. Et j'en fus très, très fier. Je voudrais l'être encore plus longtemps. Mais aujourd'hui, les hommes, ont fait de moi une terre de profit, une terre de toutes les envies. Quel gâchis ! Ils me creusent, ils m'éventrent. Oh mon Dieu, qu'ils me font mal. Mais cela leur est complètement égal, pourvu que pour eux, le pognon rentre. Quand de leur pollution, ils rongent ma peau profondément, l'incisent, la cancérisent, pour que plus rien ne la cicatrise, de tous mes points cardinaux, je fais appel à mon écho. Pour clamer ma grande douleur, afin que l'on puisse calmer mes pleurs, j'ai beau crier, j'ai beau hurler, mon écho reste sourd à mon appel au secours. Et ce n'est ce grand silence empreint d'une totale indifférence. Pourquoi voulez-vous me détruire, moi qui vous ai tant et tout donné, par cette merveilleuse nature, tant de beauté ? Pourquoi, mais pourquoi me nuire ? Depuis que je suis né, bien des guerres ont toujours existé. Guerres de territoire, de colonisation, faites par vous les hommes de toute nation. Mais aujourd'hui, de pesticides et d'insecticides, de néocides, armes plus redoutables que celles de nos aînés, j'en suis complètement inondé. Pour des cultures beaucoup plus vastes, sans en chercher les conséquences, sachant bien cependant les désastres qu'ils engendrent à brève échéance. De tous mes points cardinaux, je fais appel à mon écho. J'ai beau crier, j'ai beau hurler, mon écho reste sourd à mon appel au secours. Ce n'est pas son grand silence, empreint d'une totale indifférence. Je pourrais me révolter de mes éléments, les faire se déchaîner, mais ils, les hommes, feraient en sorte de faire de moi une planète morte. Je me serai un jour certainement, à moins qu'à mon cri de déchirement, l'écho indifférence ne soit plus sourd et me réponde « Nous venons à ton secours ». Là, à nouveau, je serai fier de dire « Je m'appelle Terre » pour durer à nouveau toute une vie dans cette immense galaxie. Ghislaine Méliès. Alors, elle n'a pas fait beaucoup de poèmes, elle n'en a fait que deux ou trois. Elle en a fait un pour ma mère. Ma mère, pour elle, c'était comme une copine. Au final, ils n'avaient pas une grande différence d'âge. Hein. Écoutez, ma mère était née en 24 et ma femme en 35. Oui, ça ne fait pas beaucoup. Hein. Et ça fait 11 ans. Oui, parce que moi, ma femme, elle avait 10 ans de plus que moi. Hein. Et moi, j'avais je crois que ma mère, elle m'a eu, elle avait 18 ans. Oui. Et ce qui fait que ça a fait un bon couple. Bon, la preuve, on est resté 50 ans. C'est la maladie qui a fait le reste. Bon, mais c'est malheureux. Et moi, je suis toujours là, avec mes 81 ans, à patienter tranquillement, qu'on m'incinère, qu'on me mette dans une belle petite boîte avec des coquelicots dessus, et un petit peu de gin tonic aussi pour mes longues nuits d'hiver. Oui, d'hiver est varié d'ailleurs. Vous voyez comment il faut prendre la vie ? Voilà. Il faut pas la prendre au sérieux. Il faut la bousculer, la vie. Hein. Alors, pas trop, parce qu'il faut pas qu'elle tombe. Hein. Bon. Ou alors, il faut qu'elle se raccroche à quelque chose. Par exemple, à de l'amour. Hein. À une bouteille de whisky, par exemple. Je sais pas, moi. Ou un bon livre. Hein. Voilà. Hein. Bon, allez, là-dessus. Ma petite chérie, ouais. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle écrivait bien. Et alors, elle dessinait aussi bien. Et elle jouait du piano à merveille. Elle me faisait les nocturnes de Chopin. D'ailleurs, le jour où je vais casser ma pipe, je veux entendre une des nocturnes de Chopin que ma femme elle jouait. Voilà. Et je vais la choisir avant de casser ma pipe. Hein. Et d'ailleurs, ma pipe, il faudra la brûler avec moi. Hein, ma pipe. Ah ouais. On ne va pas la laisser en dehors de l'urne. Hein. Et alors, c'est marrant parce qu'au final, on va me mettre dans l'urne, c'est comme si on me prenait moi pour voter. Eh oui, vous mettez un bulletin Mélier dans l'urne. Vous vous rendez compte? Et je deviens le maire de Périgueux grâce à avoir mis vos bulletins dans l'urne. Oh là là, bon, allez, arrêtez les conneries. Bon. Allez, tiens. Alors ça, c'est j'ai un livre, ça s'appelle « Les sauveurs assassinés » de Guillaume Vivier. Et je crois bien que ce monsieur est décédé, pourtant il était très jeune. Bon, si jamais il m'écoute, qu'il me le dise, hein, quand même. Les rêves menottaient, n'inondaient plus les étoiles. Vous voyez déjà, hein, c'est un peu tristounet, hein. Bon. Allons croire. Ils étaient partout, à mes pieds, pendant que je pissais dans le parc. Il y en avait un derrière un arbre qui bandait à découvert. Juste le temps de rengainer mon zob, you, pédé, que je me suis dit. J'étais entouré, j'ai levé mes cheveux en signe de paix et lancé le premier mot qui me venait à la bouche. Cucu. Ils sont sortis des fougères, comme des fantômes. Le sfeg à la main. Alors le sfeg, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais il faudrait presque se douter vu le début du texte. Hein. Bon, c'est à vous après, hein, si vous êtes intelligent, vous allez comprendre. Hein. Alors si vous n'êtes pas intelligent, téléphonez-moi, je vous expliquerai. Mais distance réglementaire en tordant d'un cul de cérémonie. Leur chef semblait sympa. Les rapports se sont détendus. Alors, les rapports, hein, attention, deux mots, hein, un rat et puis un porc. Hein. Enfin, des rats et des porcs. Hein. Et nous avons parlé objectivement de la pleine lune. Là, il dit pas laquelle non plus. Hein. Bon. Peu à peu, l'un d'eux est devenu plus bavard. Il a fini par me lâcher qu'il en voulait à mon frou. Il a ajouté, ma tante était folle, c'est tout. J'ai tressailli en les observant d'un œil inquiet. L'un d'eux me toucha le front d'un doigt odorant. Il a jugé la plaisanterie excellente et j'ai fait semblant de rire avec le poulailler. J'ai pu poursuivre ma route pendant qu'ils se marraient. Et voilà, et qu'ils se marraient. Voilà, il a continué sa route. Bon, voilà. C'est un peu con de s'arrêter comme ça, brutalement. Hein. Parce qu'il arrête tout le monde, mais lui continue sa route. Vous voyez, un peu. Bon, faut pas déconner. Alors surtout qu'ils ne mettent pas de ponctuation. Alors donc, vous voyez, à la fin de la page 33, j'ai pu poursuivre ma route pendant qu'ils se marraient. Alors moi, je tourne la page et je tombe sur un autre poème qui s'appelle « Ratata ». Alors comme je vais vous lire maintenant que je vous ai donné le titre. Hein. « Des éphèbes aux hanches pubères, une large tresse devant inondant leur poitrine, se promènent à marcher doucement. Petit cul majorette. Il y en a un qui me regarde comme une femme. L'autre, lui, met une tapette. » En donnant la salope, va de l'autre côté de la rue, il y a une étudiante aux yeux timides qui fait flamber en dedans de la braise et traverse la rue. Voilà. Alors là, il y a trois petits points. Donc, et puis, comme ça écrit ça, comme c'est pas sur toute la page, comme il y a beaucoup, il y a trois quarts de page blanche, je sais que le poème s'arrête là. Hein, là, j'en suis sûr. Voilà. Mais je vous en lirai parce qu'il est, savoureux comme quoi. Hein. Ah oui, j'aime bien. Mais bon, on peut. Vous pouvez très bien ne pas aimer, hein, bon. Mais il faut quand même que je vous les lise pour savoir si vous les aimez ou pas les aimez. Si je vous les lis pas, vous ne le connaîtrez même pas, ce monsieur, hein, Guillaume Vivier, bon, eh oui. Alors, tiens, alors, après Georges Brassens, on pouvait passer que Jacques Brel, et on va passer le pays plat, ou le plat pays.
Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes, pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'est, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne, et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages, avec le fil des jours pour unique voyage, et des chemins de pluie pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.
Et alors figurez-vous qu'il y a une similitude entre Brel et moi. Moi aussi, je suis né dans le plat pays, figurez-vous. Sauf que moi, il y avait des montagnes de charbon, parce que c'était des terrils. Je suis né sur un tas de charbon, en quelque sorte, à Bruay-en-Artois. Mon père était mineur en 1945, voilà, la fosse numéro 5. Et ma mère nous racontait que quand elle entendait la sirène d'une des fosses, toutes les femmes, les enfants, tout ça arrivait devant la mine. Parce qu'il y avait soit un coup de grisou, soit il y a eu des problèmes de morts, des trucs comme ça. Alors c'était un soulagement, parce que mon père n'est jamais mort dans la mine, voilà. Mais ça leur foutait la trouille, hein, aux femmes et aux mères aussi, parce qu'il y avait des gamins de 12-14 ans qui allaient au fond à cette époque-là. Hein. Donc bah, les mamans, c'est pareil, elles accouraient pour savoir si c'était la mine ou leur enfant était enseveli ou coup de grisou. Hein. Et alors ils avaient... Les coups de grisou, ils avaient une lampe à carbure. Je me souviens, moi, je l'avais, je sais pas où elle est, mais je l'ai regardée très longtemps, celle de mon père. Et elle était allumée, et quand elle s'éteignait, ça disait qu'attention, il va y avoir un coup de grisou, c'est-à-dire que c'était les gaz qui commençaient à éteindre la flamme. Hein. Et donc là, tout de suite, ils remontaient tout de suite par les... Ils avaient déjà des ascenseurs, hein, à l'époque. Voilà. Bon. Alors, c'est pas très poétique, ce que je vous dis là, mais bon, quand même, bon, hein. Ça fait quand même partie d'une suite de Jacques Brel. Hein. Parce qu'il devait y avoir des mines, hein, en Belgique. Ah ouais, oui. D'abord, j'ai même sûr qu'il y avait des mines de crayon là-bas aussi. Parce que lui, il écrivait ses chansons avec une mine de crayon. Ah oui. Il n'y avait pas de stylo à l'époque. Allez, tiens. René de Pestre. Alors, René de Pestre est un haïtien. Je crois qu'il a été aussi académicien. Je vérifierai un de ces jours. Ou alors je confonds avec un autre haïtien. Blason du corps féminin. Ouais, déjà le titre, hein, ça évoque bien ce qui va se passer par la suite. Hein. Bouche, elle toujours lyrique. Pouvoir combustible des baisers. Mains, armes à feu doux. Bien douées aussi par la piraterie en haute mer. Seins, légende solaire qui plane au-dessus de nos abîmes. Ventre né pour la combustion sublime du jour et de la nuit, ventre complice des volcans. Hanches, tracteurs joyeux qui savent monter à l'assaut des meilleures terres de notre sang. cuisse obscure géométrie, moulin qui sait broyer le grain de la donneur, de la douceur, pardon. Fesses, phares merveilleux, qui tournent autour de nos vagues intérieures. Jambes, herbes sauvages, qui adorent marcher dans nos entrailles eux-mêmes. Je sentirai aussi la première des céréales, l'été le plus glorieux de la chair, le sexe de la femme. Je chante l'orchestre où triomphe le dimanche du corps de la femme, le trône du sel marin, l'élément où se réveille notre innocence pour nous ouvrir de gloire, nous couvrir de gloire. Voici le sanctuaire païen où la faim et la soif, la joie et la santé, notre oubli de la mort, reçoivent jusqu'au cri leur plus haute bénédiction, gloire. Et ce fut écrit en 1963. Voilà. Quand j'avais, moi, 63, ben, j'avais 18 ans, voilà. Je commençais à avoir quelques petits poils au menton, ouais, bon, c'est normal. Voilà pour René de Prest. C'est beau, hein ? Oh là là, on en mangerait. Alors, dans le même genre, mais là, il n'est pas dans le même... il est noir aussi, mais il est en Afrique, c'est Léopold Sédar Senghor. Alors, lui aussi, il a été... je sais pas s'il n'a pas été président de la République... je ne sais plus dans quel pays, d'ailleurs. Faites voir que... Alors, c'est une anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française. Bon, voilà. Alors, bon. Un nouveau serment nègre. Alors, il l'adresse à Tristan Rémy, que je ne connais pas. Ils ont craché à sa face leur mépris glacé, comme un drapeau noir qui flotte au vent battu par la neige, pour faire de lui le pauvre nègre, le dieu des puissants, de ses baillons, des ornements d'autel, ils sont doux, de son doux chant de misère, de sa plainte tremblante de banjo, le tumulte orgueilleux de l'orgue, de ses bras qui allaient les lourds chalands sur les fleuves Jourdain, l'arme de ceux qui frappent par l'épée, de son corps épuisé comme le nôtre dans les plantations de coton, tel un charbon ardent, tel un charbon ardent dans un buisson de roses blanches, le bouclier d'or de leur fortune, ils ont blanchi sa face noire sous le crachat de leur mépris glacé. Ils ont craché sur ta face noire, Seigneur, notre ami, notre camarade, toi qui écartales du visage de la prostituée comme un rideau de roseaux sur longs cheveux sur la source de ses larmes. Ils ont fait, les riches, les pharisiens, les propriétaires fonciers, les banquiers, ils ont fait de l'homme saignant un dieu sanglant. Ô Judas Ricane. Je n'ai pas parlé de dieu Ricane. Hein. Non, ce n'est pas Ricane, c'est Dieu. Ô Judas Ricane. Christ entre deux voleurs comme une flamme déchirée au sommet du monde, allumait la révolte des esclaves. Mais Christ aujourd'hui est dans les maisons des voleurs. Et les bras des poids dans les cathédrales, l'ombre étendue du vautour. Et dans les caves des monastères, le prêtre compte les intérêts des 30 deniers. Et les clochers des églises crachent la mort sur les multiples affamés. Nous ne leur pardonnerons pas, car ils savent ce qu'ils font. Ils ont lynché John, qui organisait le syndicat. Ils l'ont chassé comme un loup hagard, avec des chiens à travers bois. Ils l'ont pendu en riant au trône du vieux sycomore. Non, frère, non, camarade, nous ne prions plus. Notre révolte s'élève comme le cri de l'oiseau de tempête au-dessus des clapotements pourris des marécages. Nous ne chanterons plus les tristes spirituels désespérés. Un autre chant jaillit de nos gorges. Nous déployons nos rouges drapeaux, taches de sang de nos justes. Sous un signe, nous marcherons. Sous ce signe, nous marchons debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. Voilà, et c'est la fin. Enfin, c'est la fin du poème, hein, bien sûr. Et en plus, c'est la fin de l'émission. Ben oui, vous vous rendez compte? Ah oui, il m'a fait un petit... Mon ami, là, il a fait un petit rond avec, comme ça, avec ses deux doigts, là, l'air de dire... Alors ça veut dire, c'est vachement bien, ou ça veut dire, ben c'est fini. Et là, apparemment, il a pas dit c'est vachement bien. Pourtant, ça a dû lui plaire, hein. Non, il a dit c'est fini. Et comme c'est fini, je suis obligé de me taire. Alors, je vous aime, et je vous dis à bientôt.